dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Fula.
Dany Joulier.
Sur Radio Centrafrique.
Bonjour. Une fois n'est pas coutume, Dissonance donne la parole à une radio amie, Radio Albigès, en diffusant une de ses émissions, Il était une fois, proposée par Franck Thiriot. Avec cette émission, nous allons évoquer ce qui s'est déroulé il y a quasiment 98 ans, en mars 1921, à Kronstadt, en Russie. Un fait rarement évoqué dans l'histoire officielle. Le 28 février 1921 débute la révolte des marins de Kronstadt qui s'insurge contre le pouvoir des commissaires bolcheviques et contre la pénurie de nourriture et de denrées diverses. Les marins, fer de lance de la révolution russe de 1917, se prononcent pour des soviets libres, dégagés de la tutelle politique des commissaires. Le 5 mars 1921, le journal du comité révolutionnaire provisoire des matelots et soldats rouges et ouvriers de la ville écrit
« Voilà trois jours que Kronstadt s'est débarrassée du pouvoir cauchemardesque des communistes. De même qu'elle s'était débarrassée il y a 4 ans du pouvoir du tsar. Voilà trois jours que les citoyens de Kronstadt respirent, libres, délivrés de la dictature du parti. »
Le 7 mars 1921, à 18h45, l'armée rouge, commandée par Trotsky, ouvre le feu sur les forts de Kronstadt. Ceux-ci ripostent et réduisent les batteries au silence. Le 8 mars, les communistes commencent un bombardement aérien sur la population pacifique de Kronstadt. Le lendemain, Izvestia, le journal du comité révolutionnaire de la ville, écrit
« Lénine a dit « Le communisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électricité ». Mais le peuple a compris que le communisme des bolcheviks, c'est la commissariocratie plus les fusillades.
Quasiment jour pour jour, 50 ans après l'anniversaire du début de la Commune de Paris en 1871, c'est le 18 mars 1921 que la commune de Kronstadt succombe sous l'écho de l'armée rouge bolchevique, qui s'empare de la ville et des forts après de sanglants combats. Les communistes continueront à exécuter des centaines de prisonniers ou de blessés. Les autres survivants, qui n'ont pas fui en Finlande, seront internés dans des camps, où beaucoup mourront de malnutrition ou bien fusillés par la Tchéka. Alexandre Berkman, un anarchiste russe, dira
« Kronstadt fit voler en éclat le mythe de l'État prolétarien. Il apporta la preuve qu'il y avait incompatibilité entre la dictature du Parti communiste et la révolution. »
Il était une fois.
Да здравствует народная революция!
La révolte de Kronstadt, 1921.
Il était une fois.
Thank you.
Il était une fois, Kronstadt, 1921. La révolution russe de février 1917 mit fin à plusieurs siècles d'une oppression parmi les plus impitoyables, celle des tsars. Dès lors, il s'agissait de transformer le monde russe par de radicales réformes issues des désirs et des besoins surgis des profondeurs même du peuple russe insurgé. La misère la plus extrême, les privilèges les plus indus, les classes sociales devaient être abolies et un traité de paix être signé avec l'Allemagne de Guillaume II. Cette guerre désastreuse, menée depuis 1914, avait fait s'effondrer le régime monarchique des Romanov et abouti à l'installation d'un gouvernement provisoire, composé de bourgeois libéraux, puis de socialistes timorés, dirigé par Alexandre Kerensky. En attendant la convocation de l'Assemblée constituante, la révolution démocratique de février 1917 adopte des mesures progressistes. L'abolition de la peine de mort, l'amnistie générale des prisonniers politiques, la journée de travail de 8 heures, la liberté de presse, de parole et d'opinion, l'indépendance des nationalités opprimées jusqu'alors par l'Empire russe, comme par exemple la Finlande et la Pologne. S'ouvre alors une période d'intense joie et de liberté nouvelle après tant de siècles de malheur et de désolation. Ressurgissent alors à travers tout le pays ces conseils ouvriers, conseils de paysans, conseils de soldats, conseils de quartier de tous les citoyens, ces fameux soviets écrasés en 1905 lors d'une féroce répression tsariste, lors du Dimanche Rouge, où l'armée tira sur une foule pacifique et désarmée. Au même moment, sur la mer Noire, dans le port d'Odessa, le cuirassé Potemkin se mutinait. 12 ans plus tard, l'autocrate Nicolas II était contraint d'abdiquer. Face à cette crise politique majeure, face aux révoltes populaires, une fois encore au cours de l'histoire du monde, les politiciens socialistes et libéraux vont tergiverser et remettre au calendrier grec, c'est-à-dire après les élections, les réformes les plus indispensables et les plus urgentes. Lesquelles ? La distribution des terres agricoles aux paysans, ces terres accaparées par la noblesse et l'église orthodoxe, terres souvent laissées en friche alors que le pays manque de tout. Mais aussi le contrôle ouvrier des grandes entreprises industrielles bénéficiaires des fameux emprunts russes. Mais surtout, la signature d'un traité de paix avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Mais mettre fin à la Première Guerre mondiale de manière unilatérale, c'est rompre du même coup les accords pris par le tsar avec l'entente franco-britannique. Et devoir, en conséquence, rembourser les fameux emprunts russes, ayant permis à l'économie capitaliste d'avant 1914 de se développer. Le peuple devrait donc encore livrer la fine fleur de sa jeunesse à la grande boucherie qui produit du pâté d'homme. Surtout que la grande offensive de juillet 1917, ordonnée par le gouvernement socialiste de Kerensky, s'est avérée absolument désastreuse. Les pertes humaines sont énormes et la crainte de Kerensky de se déconsidérer davantage le paralyse. Les désertions se multiplient au point que les généraux veulent rétablir la peine de mort sur leurs troupes, selon une vieille tradition. Mais, comme la future assemblée constituante devra se prononcer à propos du partage des terres agricoles, on en retarde encore la convocation, au prétexte de laisser aux paysans démobilisés le temps de rentrer chez eux. Mais, pour qu'ils rentrent chez eux, il faut signer un traité de paix, les paysans constituant l'essentiel des troupes russes. Les socialistes s'assoient donc sur le couvercle de la marmite, qui n'a pas de soupape. Alors, la pression monte.
Il était une fois...
Да здравствует народная революция!
La révolte de Kronstadt, 1921.
Les atermoiements des socialistes au pouvoir exaspèrent les populations, désireuses de voir mettre fin aux tueries stupides dont les enjeux géopolitiques ne les concernent pas et épuisent le pays. C'est alors que, pour la première fois, la démagogie de Lénine va pouvoir se déployer dans sa plus grande largeur à travers des mots d'ordre comme « paix immédiate ». Mais aussi ceux pour lesquels il ne pense pas un seul mot, comme « tout le pouvoir aux soviets »,« la terre aux paysans »,« l'usine aux ouvriers », etc. Lénine, obscur politicien, rentre d'exil suisse dans les fourgons de l'armée allemande, les bras chargés d'or par Guillaume II, qui compte sur lui pour les sabotages à l'arrière du front Est. Lénine va transgresser jusqu'à ses propres écrits politiques précédents. Il s'agit de ses thèses d'avril, où il se proclame en faveur de la dictature d'un seul parti, le sien, bien sûr, qu'il dirigera. Un pouvoir unique, centralisé, sur le dos de l'ensemble de la société. On sait maintenant qu'il y parviendra. Comment va-t-il s'y prendre ? Réfugié en Finlande, proche de la capitale Petrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg, avec quelques complices à la suite d'un coup de force lamentablement raté en juillet 1917, Lénine, clochardisé, crevant de faim, aux abois, rédige alors un texte de circonstance qu'il appellera « L'État et la Révolution », destiné à endormir ses adversaires de gauche. Il y reprend les analyses tardives, très tardive, de Marx et Engels sur le dépérissement de l'État, au regard des leçons données par l'histoire récente lors de la Commune de Paris en 1871, 50 ans plus tôt. Présenter la Commune comme exemple à suivre, c'est indirectement donner raison aux anarchistes et à l'ennemi de Marx, le russe Michel Bakounine. Le loup Lénine se déguise donc en agneau pour mieux dévouer. Lénine le menteur préconise alors la suppression de l'appareil étatique, de l'armée de métier, de la police professionnelle, tous remplacés par des institutions démocratiques contrôlées par le peuple, ses représentants sans privilège étant élus irrévocables à tout moment, selon les principes libertaires de la démocratie directe. Ce texte de circonstance, ce texte opportuniste, est à l'origine du mythe d'un Lénine libertaire forcé de changer de programme à cause des circonstances. Ça servira d'alibi démocratique, et ça sert encore aujourd'hui. Le piège fonctionne, aidé par les tergiversations des socialistes de Kerensky qui déçoivent et exaspèrent une population désespérée. C'est alors que les marins de Kronstadt, l'île forteresse du golfe de Finlande, juste en face de Petrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg, se rallient avec enthousiasme aux slogans révolutionnaires qui fusent de partout. Pourtant, le même Lénine avait déjà, naïvement, exposé début juin 1917 le véritable fond de sa pensée. Devant le premier congrès des soviets, en déclarant être prêt à chaque instant à prendre le pouvoir total. Il avait alors déclenché un éclat de rire général. « Ira bien qu'il ira le dernier », confétira-t-il à son complice Trotsky. En février suivant, c'est-à-dire en 1918, le micro-parti bolchevique change son nom en parti communiste afin de semer la confusion dans les esprits. Mais sur les 51 participants du premier congrès de ce parti de la classe ouvrière, entre guillemets, on ne trouve que 3 ouvriers. Les 48 autres sont des petits bourgeois en rupture de banc, n'ayant jamais travaillé. Ce parti de beaux parleurs démagogiques et brutaux va militairement s'appuyer, dans un premier temps, sur la fine fleur de la révolution de février 1917, les marins de la ville forteresse de Kronstadt, toute proche. En octobre 1918, la jeune révolution, en plein développement, va se voir détournée d'elle-même par un coup de force des nouveaux communistes, en fait un très classique coup d'État de palais, contre Kerensky, qui nomme faussement Révolution d'octobre. À partir de là, le drame va se nouer et le rêve se mue en cauchemar.
Il était une fois...
La révolte de Kronstadt, 1921.
À partir d'octobre 1918, va se mettre en place en Russie un impitoyable appareil policier. Progressivement, la brèche entre le peuple et les communistes bolcheviques va s'élargir en gouffre béant. Les soviets, ces assemblées populaires, vont être étouffées par la bureaucratie rouge. Après la victoire sur les troupes tsaristes, les épidémies, les famines et la guerre civile, dans ce pays exsangue, les marins de Kronstadt tolèrent de plus en plus mal le nouveau pouvoir. Craignant ses rivaux, le parti va chercher à s'en débarrasser. Mais c'est un gros morceau. Et l'ogre a de l'appétit. Les masques vont donc tomber. Qui sont les protagonistes du drame? La Tchéka, c'est-à-dire la police politique, l'armée rouge, créée par Trotsky, et les fameux marins révolutionnaires de Kronstadt. La Tchéka devient rapidement une puissante organisation, puisqu'elle succède à la terrible police secrète tsariste, l'Okhrana, avec souvent les mêmes hommes cruels. Elle a le pouvoir d'arrêter, d'enquêter, de juger, d'exécuter et traquer tous les opposants politiques. Chaque ville aura dorénavant son antenne de la Tchéka. La terreur rouge est ouvertement proclamée et élevée au rang de politique officielle. À Petrograd, le principal journal bolchevique écrit ceci « Encore plus de sang, le plus possible !» Il s'agit de juguler toute opposition et garder la main mise sur le pays. En seulement un mois, la Tchéka ordonne et organise l'exécution de 800 militants de gauche. À la fin de 1918, après 3 mois de pouvoir léniniste, plus de 6000 opposants politiques de toute tendance auront été assassinés. Quant à l'armée rouge, étant toujours en guerre, Lénine en confie l'organisation à son second, Léon Trotsky.
Quelques mois plus tard, le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale s'achève. L'Europe semble enfin avoir trouvé la paix. Mais en Russie, les tueries se poursuivent. Le pays est désormais en proie à une immense guerre civile qui va causer plus de morts que les sanglantes années du premier conflit mondial. La guerre civile est devenue une épreuve de force entre les bolcheviks rouges et les généraux conservateurs blancs. Ces derniers veulent revenir au pouvoir impérial tel qu'il était avant la Révolution.
En fait, c'est l'ancienne garde qui essaye de revenir au pouvoir au prix de très peu de concessions sociales.
À la différence de la guerre de tranchées contre les Allemands, la guerre civile est une guerre de mouvement. Les troupes parcourent des milliers de kilomètres en train blindé ou à cheval. Tant que les Rouges sont occupés à combattre les Allemands, les Blancs ont l'avantage. La capitale doit être transférée en hâte de Petrograd à Moscou lorsque la portion de territoire contrôlée par les bolcheviks se réduit à un îlot au cœur de la partie européenne de la Russie. Les Blancs, quant à eux, ont le soutien des puissances européennes victorieuses qui considèrent le projet d'international communiste de Lénine comme une menace pour le monde capitaliste. La Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et le Japon envoient 200 000 soldats pour venir en aide aux Blancs et étouffer toute velléité d'expansion de la part des bolcheviks en les occupant chez eux.
Avec la défaite de l'Allemagne, une intervention, ou en tout cas un soutien aux Blancs, devient envisageable. La configuration stratégique a totalement changé. La mer Baltique et la mer Noire sont à nouveau ouvertes, la Turquie n'est plus en guerre, ce qui va permettre aux Alliés d'acheminer des forces au centre de la Russie.
Le plus grand pays du monde se retrouve pratiquement sous blocus. Les troupes britanniques occupent les ports de Mourmansk et d'Arkhangelsk au nord et avancent à des centaines de kilomètres dans les terres. À l'est, japonais et britanniques entrent en Sibérie via la ville de Vladivostok, où ils sont rejoints par les troupes américaines. Au sud, la France soutient les généraux blancs depuis leur base sur la mer Noire. La Russie est désormais cernée par ses anciens alliés et la paranoïa de Lénine s'avère justifiée. Le monde entier est bien contre les bolcheviks. Les différentes factions de l'armée blanche assaillent les rouges de tous côtés, mais l'armée rouge parvient à faire face à toutes les attaques. Lorsque Petrograd menace d'être envahi par le général blanc Yudenich, les marins de Kronstadt viennent une fois de plus à la rescousse. Les Blancs sont à nouveau battus. En dépit de leurs soutiens étrangers, les armées blanches restent séparées par de grandes distances. Leur approvisionnement est limité et elles sont incapables de coordonner leurs attaques. Les généraux blancs comprennent alors que tant que les Rouges contrôleront le cœur industriel de la Russie, ils n'auront aucune chance de réussir. Finalement, au bout de 2 ans, le dernier général blanc est vaincu et les Alliés quittent la Russie pour de bon. Mais la guerre civile a totalement traumatisé le pays. Près de 3 millions de soldats ont été tués au combat et 2 autres millions ont succombé à la maladie. La population russe a souffert tout autant. Pour nourrir les ouvriers et maintenir la production de guerre, les paysans ont été contraints de céder leur surplus de céréales à un prix fixé par l'État. Ceux qui résistaient ont été tués, et des villages entiers ont ainsi été détruits pour avoir refusé de remettre leurs récoltes à la Tchéka. Dans les cas les plus extrêmes, on leur confisquait même les semences de la récolte suivante. En des temps de rébellion et de sécheresse, cette politique drastique a contribué à faire 5 millions de morts supplémentaires. De nombreux marins de Kronstadt sont issus de familles paysannes et les lettres qu'ils reçoivent de chez eux décrivent une réalité difficilement supportable.
Durant l'été et l'automne 1920, les marins font de nombreux allers-retours entre la ville et la campagne. Donc, quand les gens reçoivent des lettres de leur famille, ils savent à quel point la situation est critique.
La plupart d'entre nous étaient contents de défendre la révolution et ce qu'on avait obtenu. Mais au fond de nous, nous doutions. Lénine nous dit que toutes ces épreuves sont nécessaires pour défendre la révolution. C'est peut-être vrai, mais de nombreux héros de la Révolution ont été jetés en prison. Beaucoup d'amis sont morts. Je ne sais pas, le peuple n'est pas libre. Ce n'est pas la Révolution pour laquelle nous nous sommes tous battus.
À moins de 20 000 nautiques de Saint-Pétersbourg, dans le golfe de Finlande, se trouve une petite île fortifiée bâtie pour défendre l'ancienne capitale russe contre des attaques venues de la mer. Entourée d'une ceinture de forteresses, c'est toujours une base navale en activité. Il y a encore quelques années, l'île et la ville de garnison de Kronstadt étaient fermées au public. Ce n'est que récemment qu'on a pu reconstituer ce qui s'est passé ici, durant les premières années de la Révolution.
En Russie bolchévisée, tout le monde n'est pas affamé. Une nouvelle élite bureaucratique apparaît déjà, qui profite des privilèges matériels importants que donne le pouvoir. C'est le cas du chef bolchévique de la forteresse de Kronstadt, avec ses domestiques, ses réceptions mondaines, son champagne français, au point de devenir très impopulaire aux yeux même des marins. Ces derniers ont vu leur démocratie directe, bien vivante, être remplacée par le pouvoir des commissaires politiques du Parti communiste, leurs réunions interdites, leurs soviets contrôlés sous prétexte de la menace du retour des tsaristes qu'ils avaient réussi à vaincre.
À bord des navires, les marins de Kronstadt réagissent à la situation à Petrograd et à l'ingérence du Parti communiste.
Ils veulent un retour à certains principes de base de la Révolution.
Ils dénoncent les agissements de la Tchéka, de la police secrète et l'érosion de la démocratie.
Ils veulent la libération des prisonniers et la possibilité de parler librement.
Il était une fois...
Да здравствует народная революция!
La révolte de Kronstadt, 1921.
Les bolcheviks ont écarté les soviets, c'est-à-dire les conseils et les comités de base, dans les unités militaires, les institutions civiles, les entreprises et les quartiers, en instituant, au profit de leur parti, un maillage politique très serré, de haut en bas, au moyen d'une multitude de commissaires politiques, tous sous la houlette de leur comité central. Dès la création de ces structures verticales, hyper centralisées, dès octobre 1918 et le coup d'État de Lénine, les vrais révolutionnaires avaient surnommé « commissariocratie » cette verticalité absolue du pouvoir absolu. Maintenant, les habitants de l'île de Kronstadt, autant les civils que les marins militaires, dénoncent directement la situation en écrivant ceci. Lénine dit que le communisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électrification. Mais le peuple s'est convaincu que le pouvoir bolchevique, c'est la commissariocratie plus les fusillades. Il y a 3 ans, il nous disait « Vous pourrez, quand vous le voudrez, rappeler vos représentants des soviets et en élire d'autres. » Quand nous, Kronstadtiens, avons exigé de nouvelles élections du soviet, libres de toute pression du parti, Trotsky, successeur du fusilleur Trepov, a donné l'ordre de ne pas économiser les balles contre nous. Ils tremblent, sentant le sol se déroger sous leurs pieds. Cependant, à l'heure arsenée, se bat leur sale patte couverte de sang de nos frères et de nos pères. Le soupe de la liberté n'a pas encore disparu chez les travailleurs. Ils ne se laisseront plus asservir sous le joug des vampires communistes, suçant la dernière goutte de sang du prolétariat supplicié. Travailleurs, est-ce pour en arriver là que tu as renversé le tsarisme, écarté Kerensky, afin d'établir sur ton cou le nœud coulant des bourreaux du fel de maréchal Trotsky ? Non, 1000 fois non. Ta lourde main calleuse doit s'abattre sur ces lâches agresseurs qui sacrifient des milliers de vies de travailleurs uniquement pour garder le pouvoir. Que soit maudit le joug haï des communistes, abat le pouvoir oppresseur, vive le pouvoir des ouvriers et paysans, vive les soviets librement élus. Signé, Comité révolutionnaire provisoire de Kronstadt. Fidèles à leurs camarades de la mer Noire, ceux du cuirassé Potemkin dans le port d'Odessa en 1905, les marins de Kronstadt, ceux du cuirassé Sébastopol et Petropavlovsk, qui les soutiennent, lutteront dorénavant jusqu'à la mort contre la dictature de Lénine, Trotsky et leurs complices criminels.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents? Ma mémoire chante en sourdine Potemkine. Ils étaient des marins, durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin, au grand vent se furine. Ils étaient des marins, sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde. Que face aux révoltés montent les fusiliers? C'est mon frère qu'on assassine, Potemkine. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade, marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leurs carabines, Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkine.
À la tête de leur comité, les marins élisent l'un d'entre eux, Petritchenko, un matelot révolutionnaire combattant depuis 1914.
Le nouveau comité de Petritchenko rédige alors un message qui doit être diffusé dans tout Kronstadt. Le parti communiste a été écarté du pouvoir et un comité révolutionnaire temporaire contrôle la situation. Nous vous demandons de prendre les choses en main et de surveiller de près les communistes et leurs actes. C'est une véritable déclaration d'indépendance.
On savait qu'il faudrait se battre, mais on était à nouveau libre et on allait peut-être pouvoir recommencer la révolution.
Ils ont baptisé leur soulèvement la troisième révolution. La révolution de février était la première, celle d'octobre la deuxième et celle de Kronstadt la troisième.
Les marins de Kronstadt espèrent que leur action va réactiver les forces de 1917. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne pas mettre en œuvre ces idéaux. Les Blancs ont été battus et balayés. Il n'y a plus aucune menace directe contre la révolution. Donc, il faut revenir à ce qu'on croyait avoir obtenu en 1917.
C'est à Kronstadt, en mars 1921, qu'est posée la première pierre de la troisième révolution, après celle de 1905 et février 1917, opposée à la dictature bureaucratique des bolcheviks, devenant l'exemple d'une nouvelle construction socialiste, laissant derrière elle l'Assemblée constituante et son parlementarisme politicien, la dictature du Parti communiste, les Tchékas et le capitalisme d'État en construction. L'insurrection de Kronstadt le menant au bord de la disparition, Lénine effectuera un complet retournement politique. Un de plus, le 15 mars 1921, en instituant ce qu'il appellera du nom pompeux de NEP, Nouvelle Économie Politique, qui n'est que la restauration d'un capitalisme privé disparu depuis déjà 2 ans. Cette NEP, le peuple l'appellera Nouvelle Exploitation du Prolétariat. Ceci tout en sabotant l'autogestion ouvrière et paysanne des comités d'usine et des soviets de paysans. Un cynisme idéologique à géométrie variable afin de conserver le pouvoir coûte que coûte, quel qu'en soit le prix, en route vers l'abîme. La révolte des gens de Kronstadt est une démarche profondément collective. La masse des insurgés étant apolitique, ou plus exactement apartidaire, c'est-à-dire sans adhésion à un parti. Sans meneur ni leader, elle se fait contre le césarisme bureaucratique pour établir le pouvoir des conseils librement associés. Cette volonté de démocratie directe, que nous voyons aujourd'hui comme absolument moderne et contemporaine, est issue en droite ligne des traditions égalitaires de la Russie ancienne, dont les soviets sont une résurgence naturelle. Pour Lénine, tout cela est absolument inadmissible, et sa réponse est cinglante, comme un coup de knut. Niet. Il déclare à plusieurs reprises que « la démocratie directe est une idée petite bourgeoise. Seul le parti unique et l'État gouvernent. » Lénine et Trotsky craignent la contagion révolutionnaire, car en même temps il doit faire face, de 1919 à 1921, au puissant mouvement insurrectionnel des paysans et ouvriers d'Ukraine, avec l'anarchiste Makhno à sa tête, la fameuse Makhnotchina, dont les gens de Kronstadt se revendiquent aussi. L'armée noire des partisans d'Ukraine veut, elle aussi, se débarrasser des rouges et des blancs.
Makhnotchina, Makhnotchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnotchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnotchina les avait jetés au vent. Makhnotchina, Makhnotchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Ukraine entre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Il était une fois.
Да здравствует народная революция!
La révolte de Kronstadt, 1921.
L'assaut contre l'île de Kronstadt se prépare en haut lieu. C'est maintenant précisément qu'il faut donner une leçon à ces gens, déclare Lénine, de façon à ce que pour les décennies, ils ne puissent même pas penser à quelque résistance que ce soit. La purge cruelle est en préparation. L'appel au meurtre est lancé par le commandant Kazansky en ces termes. Lors de la prise des forts, il faudra se débarrasser cruellement des mutins, fusiller sans aucun regret tous ceux qui s'y trouvent et ne pas retarder pour ça les assaillants. Dans les combats de rue de Kronstadt, tuer tous ceux qui sont armés, ne pas perdre de temps avec les prisonniers et n'entrer en aucun cas en discussion ou en pourparler avec les rebelles. Fusiller sur place, il ne doit pas y avoir de prisonniers. À quoi le marin Petritchenko, président du comité révolutionnaire provisoire de Kronstadt, réplique. Kronstadt coûte cher aux communistes. La chute de Kronstadt est leur chute. Ils peuvent fusiller les Kronstadiens, mais ne pourront jamais fusiller la vérité de Kronstadt. Le premier assaut est pour demain matin. La nuit du 12 au 13 mars 1921 sera très longue. Une fois rendus maîtres de leur forteresse, les marins ont supprimé l'appareil policier et judiciaire des communistes et nommé une commission devant réexaminer le cas de chaque prisonnier. Au sujet de l'approvisionnement, les marins vont avoir une surprise de taille en perquisitionnant les spacieux appartements des commissaires politiques bolcheviques. Une grande quantité de nourriture y sont découvertes. Les bureaucrates ne se privaient de rien alors que la disette régnait partout en Russie, sauf au Kremlin. Tout est alors immédiatement distribué à la population civile, fort nombreuse. Pendant ce temps, sur la rive du golfe de Finlande, à Petrograd, les quartiers ouvriers sont totalement déserts. Des passants isolés marchent en longeant les murs, tête baissée, vêtus d'habits rapiécés. On sent que la conscience de leur impuissance pèse lourdement sur eux. Les coups de canon au loin les frappent comme des coups de fouet, leurs poings se serrent et les visages se crispent. La peur submerge tout lorsqu'une patrouille communiste surgit. Elle a le droit de fouiller et de fusiller sur place tout attroupement de plus d'une personne. Tout le Petrograd socialiste et anarchiste est décimé par la répression. Les équipes de la Tchéka arrêtent tous les militants de gauche, légaux comme illégaux, même les vétérans de la révolution de février 1917. Les caves de la police politique vont se remplir jusqu'à la gueule, les fosses communes également. Lorsque les troupes s'embarquent sur les quais pour aller combattre Kronstadt, on en entend souvent des cris hostiles. Les esclaves de Trotsky vont fusiller la classe ouvrière! Le bombardement de l'île commence, à raison de 100 obus par jour, c'est-à-dire à chaque quart d'heure. Les renforts des bolcheviks arrivent, mais leur état d'esprit laisse à désirer. Les soldats sont alors arrêtés pour agitation contre l'attaque et refus d'occuper leur poste de combat. trois régiments d'élite de la 27e division de tirailleurs, au total 8000 hommes, s'avèrent rebelles aux ordres lorsqu'ils apprennent qu'ils devront combattre les marins révolutionnaires de Kronstadt. Un espion apprend au commandement que le régiment de Nevel a décidé, lors d'une assemblée générale, de ne pas combattre et de se rallier aux mutins si l'occasion s'y prête. L'espion recommande au commissaire politique Vorochilov leur élimination immédiate. Ces régiments tentent de gagner Petrograd afin de soutenir les ouvriers. On les fait aussitôt encercler par des régiments de jeunes recrues, dépêchés en toute hâte de la lointaine Sibérie, à qui l'insurrection est présentée comme le fait de tsaristes armés par l'étranger. Pour les autres troupes, c'est littéralement avec des fusils ou des mitrailleuses dans le dos que les soldats montrent à l'assaut de la forteresse. La mer autour de l'île est gelée. Elle pourra donc être prise d'assaut par des fantassins, mais les moyens de défense y sont importants. Avec ses forts aux murailles renforcés par des blindages de granit et d'acier, ses rangées de barbelés disposées sur une glace épaisse. Les canons sont blindés, les munitions abondantes, et les marins de Kronstadt forment une troupe d'élite. Il y a encore peu de temps, le général Isintrowski les appelait « fiertés et gloires de la Révolution », avant qu'ils ne remettent en cause sa dictature. L'assaut est déclenché.
L'armée rouge espère que les fumigènes couvriront son attaque. Mais ils ont peu d'effet. Les soldats sont totalement à découvert sur la glace et essuient des tirs nourris en provenance des forteresses. L'armée rouge est battue d'avance. 80% des hommes ayant pris part à l'offensive sur la glace meurent sur la glace. Les marins de Kronstadt ont réussi à repousser l'armée rouge. L'île fortifiée a tenu bon.
Isolés, les marins ont besoin du soutien de la population de Petrograd, juste en face, sur le continent. Mais les gens y sont épuisés après 6 ans de privation, de misère et de mort. Afin d'éviter une réaction de révolte, toujours possible, Lénine affrète des trains de marchandises en provenant de toutes les boulangeries du pays et les fait distribuer à la population, comme on fit un calmant à un malade, pour qu'il dorme. Parallèlement, il tente de discréditer les héros de 1917 en prétextant un retournement de veste au profit des Blancs. Un tissu de mensonges que tous les historiens rejetteront en bloc et en détail. Le dégel est prévu pour la fin mars 1921, après quoi il ne sera plus possible de donner l'assaut. Il faut donc faire vite, très vite. Attaquer, attaquer, attaquer encore. 45 000 soldats de l'armée rouge sont déployés, venant de très loin, mieux équipés cette fois, ignorant du drame politique qui va se nouer ici pour les 3/4 des siècles suivants. La prochaine attaque se fera de nuit, le choc sera terrible. La résistance est farouche, les combats acharnés. On ne fait pas de quartier. Vorochilov et Lénine l'ont dit. On défend l'île pied à pied, face à plus de 10 000 hommes, en vague déferlante, toute la nuit et tout le jour qui suit. On est submergé par le nombre, la bataille est perdue, les rues se jonchent de cadavres, les communistes fusillent les prisonniers et les blessés. C'était au programme. Des survivants parviennent à fuir vers la Finlande toute proche.
Dans les forteresses, les combats ont été féroces. Les marins n'ayant pas fui sont abattus ou déportés vers les premiers camps de concentration russes.
Les combats ont fait des milliers de morts et la tuerie ne s'arrêtera pas là. 15 000 marins seront passés par les armes sur la côte après avoir dû eux-mêmes creuser leur tombe.
Да здравствует народная революция!
Coïncidence de date a voulu que le 18 mars 1871, premier jour de la Commune de Paris, soit aussi, 50 ans plus tard, le dernier jour de la Commune de Kronstadt, écrasée par les troupes de Lénine et Trotsky, les tiers et galifets de Russie. Ce 18 mars 1921, les dictateurs rouges fêtent dans un dîner de gala au Kremlin, au Champagne, les communards parisiens, tandis que les cadavres des marins insurgés jonchent les rues de Kronstadt et ceux de leurs assaillants trompés, les vastes étendues glacées au pied de la forteresse de la Liberté. « Nous les tirerons comme des perdrix !» avait promis le fel de maréchal Trotsky. Promesse tenue, sauf que les perdrix en question ont réussi à tirer pas mal de chasseurs. Le fondateur de l'armée rouge avait pourtant promis, dans son ultimatum du 5 mars, la clémence de la République soviétique à ceux qui s'en rendraient sans condition. Message réitéré 10 jours plus tard par Zinoviev. À preuve de cette clémence, 900 matelots et soldats qui s'étaient rendus seront fusillés dès le premier jour de la prise de la forteresse, y compris des marins des célébrissimes cuirassiers Sébastopol et Petropavlovsk, qui ont été les plus actifs combattants contre les bolcheviks avec leur artillerie navale. Les chefs fusilleurs recevront en récompense de jolies montres en or, les autres une décoration de l'ordre du drapeau rouge, rouge du sang des ouvriers, des marins et des paysans. Une déclaration à la gloire de ces mêmes ouvriers paysans avec faucille et marteau. De leur côté, quelle avait été la position de principe et surtout l'attitude des insurgés à l'égard des communistes et des soldats prisonniers? Les commissaires politiques, les tchéquistes et les communistes arrêtés avaient été traités, tout comme les 250 responsables du parti laissés en liberté sur l'île, ceux dont les actes de sabotage avaient pourtant été si évidents le 17 mars. C'est d'ailleurs à leur intervention que les combattants de la liberté attribueront la principale cause de leur défaite. À la question qui sera posée plus tard à Petrotchenko et ses compagnons réfugiés en Finlande, pourquoi s'être conduits de cette manière aussi bienveillante envers leurs ennemis? Ils répondront: nous nous sommes insurgés contre la violence et l'injustice des commissaires politiques, et nous n'estimions pas possible d'agir de même. C'était évidemment très juste et tout à fait louable dans l'absolu, mais l'absolu est une denrée rare. Dans les circonstances, cette attitude ressemble à de l'angélisme, ce dont ne feront évidemment jamais preuve les gens de pouvoir, de gauche comme de droite, le pouvoir n'étant ni de gauche ni de droite, juste le pouvoir. Les exécutions de masse qui suivent seront un véritable massacre de révolutionnaires, authentiques et généreux, qui n'avaient jamais eu que le tort d'avoir voulu des élections libres dans les conseils, ces fameux soviets. Dans un billet top secret du 24 mars 1921, Trotsky propose à Lénine, Molotov et Dzerzhinsky, le chef de la police politique, la Tchéka, d'organiser, à fin de propagande, un procès public de tous ces anarchistes. Les Kronstadtiens, d'une part, les Makhnovites, d'autre part. Ces propositions ne seront pas suivies d'effet, les procès risquant alors de se retourner contre ses promoteurs. Pour effacer des esprits les faits de l'insurrection, le gouvernement décide de rebaptiser les deux célèbres cuirassés, le Petropavlovsk devenant le Marat, tandis que le Sébastopol devenant commune de Paris. Plus tard, 20 000 Kronstadtiens seront internés en camp de concentration dans le Grand Nord, condamnés aux travaux forcés, loin de tout lieu habité, certains même tués par noyade, par barges entières, au milieu des étendues glacées. La construction de l'État est à ce prix. Environ 8 000 hommes de Kronstadt, civils et soldats, réussiront à passer sur la rive nord du Golfe en Finlande. Un traité de paix avait été conclu en octobre 1920 entre ce pays, nouvellement indépendant de la Russie, et Lénine. Débarrassée des révolutionnaires depuis la guerre civile de 1918, cette Finlande nationaliste et blanche, c'est-à-dire plutôt pro-tsariste, ménage son grand voisin afin d'éviter tout affrontement. Aussi, c'est un regret, forcé par les circonstances, qu'elle reçoit les réfugiés. Bien qu'ils aient des chevaux et des attelages, la plupart ont marché dans la neige fondue, durant 8 heures, de l'eau glacée jusqu'aux genoux, sur 25 km. Transit froid, affamés, ils seront nourris par la Croix-Rouge américaine et danoise. On les logera dans les anciennes casernes, sans confort, ou des baraquements de fortune, dormant sur le sol glacé, en attente d'un hypothétique statut de réfugié. Il en restera encore sur place plusieurs centaines, un demi-siècle plus tard. Pour la majorité des insurgés, leur refuge en Finlande n'est qu'un répit. Ils ont hâte de reprendre la lutte contre la dictature, aussi supportent-ils mal d'être internés et gardés derrière des barbelés. Ainsi, le 30 mars 1921, déclare-t-il par écrit ceci, je cite: la garnison de Kronstadt et les habitants ont renversé le joug communiste. La première, comme toujours, Kronstadt a montré ce qu'il fallait faire avec la bande de criminels qui se sont emparés du pouvoir en Russie. Nous attendons que les communistes ainsi se rendent compte de leur aventure sans issue et rendent le pouvoir au peuple. Fin de citation. Mais la dernière lueur de ce rêve d'inégalité et de justice sociale restera derrière eux, un Kronstadt comme dans les vastes plaines de l'Ukraine makhnoviste. Ce qui mourra ici, ce sont les aspirations populaires de 1917. Ça a été fini de la glorieuse révolution russe et de tout espoir de socialisme en ce pays. Pour plus d'un siècle. Le petit père des peuples, Joseph Staline, succédera à Lénine et se transformera en le plus grand massacreur de communistes de l'histoire du monde. Une histoire de boomerang en quelque sorte. Durant tout le XXe siècle, les partis affiliés à Moscou, en France comme ailleurs, déverseront des tombereaux de calomnies sur les héros de la liberté, ceux-là comme d'autres. Les marins de Kronstadt, héritiers d'un projet de socialisme libertaire, pluraliste et démocratique, digne de Proudhon et Bakounine.
Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Pour voir resurgir au même XXe siècle l'espoir d'une société nouvelle, il faudra attendre qu'elle sorte du ventre fécond du grand peuple espagnol en 1936 au cri de No Patalan. Mais ceci est toute notre histoire et l'histoire n'est jamais terminée.
Parana la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel. Tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba.
Les extraits sonores sont tirés du documentaire britannique de Ian Milley, La Révolution en couleur.
C'était Il était une fois, une émission proposée par Franck Thiriot.
Cette émission sera rediffusée mercredi 27 mars à 14h et samedi 30 mars à 16h.
Vous trouverez sur la page Dissonance du site internet de Radio Sainte-Afrique un lien vous permettant de réécouter cette émission, mais aussi divers liens vous donnant des compléments d'informations.
Cette émission est disponible en téléchargement depuis notre page internet pour l'écouter à votre guise.
Salut
et fraternité.
M'en faudrait-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi, au bruit de l'océan. M'en faudrait-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce monde que je dise au vent des quatre vents. Ma mémoire chante en sourire. Ils s'étaient des mains durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin où au grand vent se burine. Ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine.
chapeau dis un monde où celui qui a faim va être fusillé. Le crime se prépare et la mer est profonde. Que face aux révoltés montent les fusillés. C'est mon frère qu'on assassine. Mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade. Marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils ouvrent leur carabine. Beaucoup, si je vous disais un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort, m'en voudrez-vous beaucoup? Si je vous disais un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort.